Donc, au sens statistique, les classes populaires regroupent les employés et les ouvriers qui représentent combinés dans la population active 50% à peu près des actifs. Quand on prend toute la population française au-delà des actifs, on arrive à 45,7% si on met aussi les anciens ouvriers et employés, les retraités. Donc, on peut dire qu'ils représentent une grande part de la société française. Et pourtant, dans les médias et dans la représentation politique, on les voit peu. Et donc, je suis allée ce matin sur le site de l'Assemblée nationale pour voir combien il y avait d'ouvriers et d'employés. J'en ai trouvé deux. Alors, on m'a dit qu'il y en avait peut-être une autre personne, mais en tout cas, c'était Marie-Georges Buffet et Jean Lassalle. Donc, voilà, il y a une petite différence entre représentation politique des classes populaires et leur poids dans la société française actuellement. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser aux conditions de la participation politique des classes populaires, en regardant leur intérêt pour le politique, le rapport au politique, le vote, l'engagement militant et notamment l'engagement partisan, et notamment à partir d'enquêtes, de récits de terrain, de statistiques, de perspectives historiques aussi, pour comprendre ces phénomènes et les expliquer. Et notamment, ce qui nous tenait à cœur, c'était de comprendre le vote des classes populaires au-delà des débats caricaturaux sur la xénophobie des classes populaires, l'autoritarisme, le repli qui serait à l'origine d'un vote d'extrême droite, et notamment le discours qui dit que les gens qui votaient Parti communiste votent aujourd'hui Front National. Et donc on ne va pas éluder cette problématique de la droitisation des classes populaires, mais on va essayer de montrer la diversité des votes, la diversité des opinions politiques dans les classes populaires, en explorant vraiment les logiques sociales, les dynamiques individuelles et collectives qui conduisent à voter ou à ne pas voter, d'ailleurs. Et juste pour faire un petit point sur le mot politisation, on va le prendre un peu dans ces deux sens. Le premier sens qui est le degré de connaissance du monde politique et de participation politique. Et le deuxième sens qui est la socialisation à la politique, en fait, donc c'est-à-dire les manières d'acquérir un certain rapport au politique. Et par rapport au politique, on entend notamment rapport à l'État, rapport aux hommes et femmes politiques, rapport aux grandes questions collectives, rapport à ce qu'on pense des groupes sociaux, rapport entre hommes et femmes, français, étrangers, etc. Alors, il me faut ma troisième feuille. Et oui, juste pour planter le décor, je voulais juste donner quelques chiffres sur la participation politique aux élections présidentielles de 2017, donc, qui est issue d'un sondage Ipsos sur les votes effectifs, donc pas un sondage avant le vote. Donc sur l'abstention, on a 29% des employés et des ouvriers qui s'abstiennent contre 22% des cadres. Et au niveau de ce qu'ils ont voté quand ils ont voté, alors il y a des petites différences entre ouvriers et employés toujours, je vais vous donner des fourchettes. Ils ont voté à 4% pour Philippe Poutou et Nathalie Arthaud, à entre 22 et 24% pour Mélenchon, entre 5 et 6% pour Hamon, entre 19 et 16% pour Macron. Pour François Fillon, entre 5 et 8%, Nicolas Dupont-Aignan, 5 et 7%, entre 32% pour les employés et 37% des ouvriers pour Marine Le Pen, et entre 2 et 4% pour les autres partis. Pour les cadres, donc du coup vous n'aurez pas forcément la différence en tête, mais je peux vous dire qu'ils ont voté donc pour Mélenchon à 19%, pour Hamon un peu plus que les ouvriers employés à 8%, pour Macron à 33%, donc là beaucoup plus, pour Fillon à 20%, là aussi beaucoup plus, et pour Le Pen par contre beaucoup moins, ils ont voté à 14% pour Marine Le Pen. Donc voilà, ça c'était juste des petits chiffres que vous pourrez retrouver en ligne si vous voulez comparer mieux deux à deux. Mais donc pour parler de ces différentes questions, on a 5 intervenants aujourd'hui pour participer à ce débat. Et donc, on a déterminé un petit ordre de présentation, donc je vais les présenter dans l'ordre et en leur disant un petit peu de quoi ils vont vous parler aujourd'hui. Et ensuite, on aura. Donc, ils vont parler environ 10 minutes chacun. Et ensuite, on aura bien sûr un temps de débat avec la salle pour avoir toutes vos questions auxquelles ils répondront avec plaisir et qui débattront entre eux. Donc, Yasmine Ciblot va commencer. Elle est professeure de sociologie à l'Université Paris 8. Elle travaille sur les classes populaires et elle a publié récemment un livre qui s'appelle Sociologie des classes populaires contemporaines en 2015. Où elle dresse un tableau social et politique des employés et des ouvriers. Et donc aujourd'hui, elle va nous parler des recompositions des classes populaires à l'heure actuelle. Ensuite, on va avoir Gérard Mauger, qui est directeur de recherche au CNRS, spécialiste des classes populaires et notamment de leur vote. Et justement, en 2017, il a publié un livre qui s'appelle « Les classes populaires et le FN ». Et donc, il va aborder justement avec nous aujourd'hui la question de la droitisation des classes populaires et comment on peut expliquer ce type de vote-là. Ensuite, il va y avoir Raphaël Chalier, qui est doctorant en sociologie politique à Paris 8. Et donc là, il termine une thèse sur le rapport des simples militants des classes populaires à leur parti politique en travaillant sur des militants du FN, de l'UMP et du Parti communiste. Et donc, il a récemment publié un article sur un site qui s'appelle Métropolitique et donc qui est entièrement disponible sur les paradoxes de la dédiabolisation du FN. Et donc, lui, il va parler du rapport aux politiques des militants populaires. Ensuite, on aura Paul Boulan, qui est ingénieur de recherche au CNRS et qui travaille sur l'histoire du Parti communiste français et qui est directeur du dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, donc on connaît comme le Métron. Et lui va revenir sur la construction de la représentation de la classe ouvrière dans les années 50-70. Et enfin, nous aurons Paul Durand, qui est comédien. Pardon, excuse-moi, Philippe Durand. Je suis désolée, j'étais sur le Paul Boulan. Philippe Durand, qui est comédien et qui s'intéresse depuis longtemps au monde du travail. Et donc lui, il est allé rencontrer des ouvriers de Fralib juste après leur victoire contre Unilever et pendant la mise en place de leur scop. Et donc il en a fait une petite forme théâtrale que vous pourrez donc voir si vous êtes inscrit juste après. Et il va nous raconter son expérience. Du coup, on va commencer dès maintenant avec Yasmine Ciblo. Si tu...
Merci beaucoup. Donc pour ouvrir la discussion, je voudrais préciser de qui et de quoi on parle, en tout cas de qui et de quoi parlent les sociologues quand ils parlent de classe populaire en France aujourd'hui. Donc c'est dans un souci de clarification, mais c'est aussi parce que cette question de définition, elle a beaucoup à voir avec la question de la politisation. Donc sans rentrer dans trop de détails qui ne nous intéressent pas aujourd'hui, je pense que c'est important de souligner que des années 50 aux années 90, les sociologues en France, mais ça serait vrai ailleurs, ne parlaient pas du tout des classes populaires, ils parlaient de la classe ouvrière. Et c'était vraiment le terme central de la sociologie des classes sociales en France. Alors ça renvoyait à plusieurs raisons. Hein. D'abord au fait que le groupe ouvrier, notamment les ouvriers d'industrie, était très important, beaucoup plus important qu'il l'a été par la suite. Et ça renvoyait aussi à l'importance du marxisme dans la sociologie en France et dans les sciences sociales en France. Et donc l'emploi du terme de classe ouvrière, ça renvoyait pas uniquement, mais en grande partie à une notion marxiste, l'idée qu'on avait un groupe qui avait une homogénéité en termes de conditions de vie, mais aussi une conscience sociale en tant que groupe et une conscience politique. Et donc beaucoup de travaux se sont penchés sur les groupes ouvriers qui étaient le plus à l'image de cette conception de la classe ouvrière, donc les ouvriers de la grande industrie, souvent qualifiés, souvent syndiqués, et leur forme de politisation. Donc ils ont beaucoup plus étudié ces groupes que d'autres qui étaient pourtant importants numériquement en France jusqu'aux années 80-90. Donc des ouvriers de la petite industrie rurale, des ouvriers peu qualifiés, notamment ceux qu'on appelait les OS, et au sein du monde ouvrier, les femmes, les ouvrières, les ouvriers immigrés, donc qui faisaient l'objet de beaucoup moins d'attention. Et de façon générale, les ouvriers peu syndiqués ou pas syndiqués du tout, pas politisés, conservateurs, faisaient pas tellement l'objet d'une grande attention, et pourtant il y en avait. Donc en fait, les auteurs qui ont commencé à employer la notion de classe populaire, ils l'ont fait à un moment où le monde ouvrier était encore très important, relativement puissant politiquement. Ils l'ont fait dès les années 70, un peu en réaction à une image qui jugeait trop idéalisée de la classe ouvrière et trop homogène de la classe ouvrière. Et donc c'est des auteurs, notamment Pierre Bourdieu, mais il y en a d'autres, qui ont employé la notion de classe populaire pour rappeler qu'il y avait une grande diversité parmi les groupes dominés en France, que toutes les fractions de ce monde n'étaient pas politisées, qu'il y avait aussi des ouvriers peu qualifiés, qu'il y avait aussi des petits employés, des petits paysans, et pour porter un autre regard que ce regard qui était alors dominant, qui ne l'est plus aujourd'hui, mais qui était alors tout à fait dominant, en tout cas dans les sciences sociales et une partie du monde politique. Et par ailleurs, au fil des décennies, les transformations sociales ont rendu de plus en plus compliquée l'idée de se limiter au groupe ouvrier, avec le déclin de l'industrie, la montée de ce qu'on appelle les services qui regroupent des secteurs d'activité très variés. Et donc beaucoup d'auteurs, de sociologues et aussi dans d'autres disciplines se sont intéressés aussi à ce qu'on appelle les employés, je reviendrai après là-dessus, et on soulignait les rapprochements entre ces deux groupes, et de plus en plus ont employé ce terme de classe populaire pour désigner une portion beaucoup plus large du monde salarié que celle que recoupait la classe ouvrière. Donc cette notion de classe populaire, elle pose quand même des questions, parce que d'abord elle renvoie à un vaste ensemble. Amélie a rappelé tout à l'heure que c'est aujourd'hui plus de la moitié de la population active qui peut être regroupée sous ce terme, mais avec des différences internes très importantes. Et l'autre question, c'est que cet univers, enfin ce grand groupe des classes populaires, il est fait de gens qui, dans la plupart des cas, ne s'identifient pas du tout à cette notion, ne se disent jamais membres des classes populaires, pour qui ça ne signifie pas grand-chose. Et donc, il n'y a pas vraiment, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment une conscience de classe très forte au sein des classes populaires. Et il y a des formes d'identification politique qui ne se renvoient pas non plus à une conscience de classe, comme ça avait pu l'être dans une forte minorité du monde ouvrier par le passé. Donc c'est ces deux niveaux de discussion qui sont importants. Donc moi là, je vais surtout me centrer sur le premier point, de qui on parle, jusqu'à quel point c'est un univers éclaté, ou est-ce qu'il n'y a pas des traits communs forts, hein, c'est plutôt ce que je vais souligner. Et puis l'autre point, la question des formes de conscience de classe et de politisation, elle sera plus abordée par mes collègues puis par la discussion. Donc quand en France on parle beaucoup d'ouvriers, d'employés, c'est des catégories qui sont en grande partie des catégories fabriquées par la statistique. Donc les ouvriers, c'est les travailleurs d'exécution de l'industrie, mais aussi de l'artisanat, un tout petit peu de l'agriculture dans le cas de la France. Donc certains sont qualifiés, d'autres ne sont pas qualifiés. Ce groupe des ouvriers, en France, il est composé à 80% d'hommes. C'est une donnée très importante pour comprendre de quoi on parle. Les employés, par contre, c'est un groupe très très varié. Ça renvoie donc à ces travailleurs et travailleuses d'exécution de ce qu'on appelle les services. Donc c'est aussi bien le commerce, les administrations publiques et privées, des gens qui travaillent à domicile pour du ménage, s'occuper des enfants, des personnes âgées, des petits fonctionnaires. Donc cet ensemble est composé à 80% de femmes. Donc on a deux groupes, deux travailleurs d'exécution, subalternes, mais qui sont très différents en termes de genre. Donc cette division entre hommes et femmes, elle est très stable, hein, elle renvoie au fait aussi qu'au bas de l'échelle du travail, il y a une plus forte ségrégation entre hommes et femmes qu'aux échelons plus élevés. Je ne rentre pas dans cette question-là, mais elle est vraiment importante. Donc Amélie l'a dit, c'est plus de 50% des actifs aujourd'hui. Il faut avoir en tête que c'est une part qui diminue. Dans les années 70, c'était plutôt de l'ordre de 60%, et que progressivement, la part des ouvriers baisse, tandis que celle des employés est en croissance. Donc ce grand groupe au sein de la société française, il est hétérogène. Alors je ne vais pas rentrer dans des détails statistiques ou autres, mais juste évoquer un certain nombre de traits d'hétérogénéité. Il est inégalement exposé au chômage et à la précarité, hein, les moins qualifiés qui sont aussi pour partie d'entre eux des immigrés, qui sont aussi pour partie d'entre eux des femmes, sont beaucoup plus exposés au chômage et à la précarité que les plus qualifiés, et ces écarts ont plutôt tendance à se creuser. On peut souligner aussi qu'il y a des écarts en termes d'accès aux études secondaires et supérieures au sein de ce groupe et parmi les enfants de ce groupe, qui sont des écarts non négligeables. Il y a aussi des différences entre filles et garçons parmi les enfants d'ouvriers et d'employés. Les filles réussissent mieux à l'école, mais il y a des différences entre enfants d'ouvriers et enfants d'employés, enfants d'immigrés et de non-immigrés, qui ont des conséquences aussi importantes. Il faut souligner que ces fragmentations, ces divisions internes au monde populaire, enfin, qui ont des conséquences politiques fortes, hein, elles sont fortement alimentées par les politiques sociales, par les politiques de logement. Donc il y a eu tout un ensemble de politiques du logement qui ont poussé vers l'accession à la propriété les fractions qui en avaient les moyens des mondes populaires, qui sont sorties notamment des quartiers de logement social pour acheter souvent à l'extérieur des grandes villes, tandis que les grands ensembles de logement social se sont paupérisés. Ça a accentué des divisions, des sentiments de concurrence au sein des mondes populaires. On pourra en dire de même de tout un tas de politiques sociales. Donc ces écarts, et on pourrait énumérer d'autres formes d'écarts et de rivalités internes au monde populaire, ils ont des conséquences politiques fortes dans le fait qu'il y a moins de conscience de classe et de conscience politique commune, dans aussi des votes d'extrême droite ou d'autres types de votes. On reviendra là-dessus, je pense, après. Il y a aussi tout un tas de traits forts d'unification et de rapprochement entre ces différents univers qui plaident pour qu'on les considère quand même comme un grand groupe social avec le terme de classe populaire. Et ces traits, donc, ils sont très très nets dès qu'on compare ces groupes dans leur ensemble aux classes moyennes et aux classes supérieures. Et ils sont vraiment flagrants, donc là aussi je ne rentre pas dans les détails, mais je les énumère. Ils sont vrais dès qu'on s'intéresse aux ressources économiques, aux revenus, au patrimoine de ces groupes. Ils sont très proches, hein, les ouvriers, les employés ont des revenus très proches entre eux, et nettement inférieurs aux classes moyennes et très très nettement inférieurs aux classes supérieures. En termes de conditions de travail, il y a aussi de plus en plus de proximité dans les rythmes de travail, les horaires, les cadences, les formes de contrôle et de subordination au travail des ouvriers et des employés. La santé, c'est aussi un révélateur très fort de leur proximité, hein, même s'ils n'ont pas, les hommes et les femmes, ouvriers, employés, n'ont pas les mêmes maladies, les mêmes difficultés dans leur mode de vie et au travail, ben, ils sont tous nettement plus affectés par des maladies en général et des maladies professionnelles en particulier que les cadres ou les professions intermédiaires. Leur mortalité est plus élevée et ça reste très stable dans le temps. C'est des groupes qui se rapprochent aussi dans leur composition interne par du fait de la place des immigrés en leur sein. Les immigrés en France ne sont pas tous de classe populaire, mais leur grande majorité sont de classe populaire. Et ils constituent un groupe important au sein des ouvriers comme des employés, ce qui n'était pas forcément le cas 30 ou 40 ans auparavant. Il y a certaines professions qui sont très, très massivement composées d'immigrés au sein des ouvriers et des employés. Tout à l'heure, j'ai évoqué l'école. Il y a des différences de réussite scolaire parmi les enfants d'ouvriers et d'employés, mais globalement, c'est des groupes qui restent, malgré l'allongement des études, à distance de tout un ensemble de formations prestigieuses et même des études longues en général. Donc, on pourrait énumérer encore d'autres formes d'inégalité et d'éléments qui fondent la proximité entre ces deux groupes. Pour terminer là-dessus, je vais insister sur trois points qui sont vraiment importants pour prendre la mesure de la proximité entre ces groupes. Le premier point, c'est que c'est des groupes qui sont confrontés à les uns comme les autres, ouvriers, employés, des faibles possibilités de mobilité sociale, ce que les sociologues appellent la mobilité sociale, que ce soit eux-mêmes ou leurs enfants, parce qu'il y a de moins en moins de possibilités d'accès à des formations qualifiantes dans tout un ensemble de secteurs, parce que l'accès aux professions intermédiaires et encore plus de cadres est de plus en plus difficile. Donc, ils sont relativement bloqués dans ces postes subalternes. Il y a des gens qui deviennent ouvriers, qui deviennent employés. L'inverse est vrai également, mais c'est de plus en plus rare d'avoir une promotion à partir de ces positions-là. Également, les enfants aussi sont souvent proches de la position de leurs parents. L'autre élément qui renforce la proximité entre ces groupes, qui n'est pas nouveau, mais qui est rendu visible parce qu'une part maintenant très importante des femmes de milieu populaire a un travail salarié, c'est que ces ouvriers et ces employés sont souvent conjoints. C'est-à-dire qu'on les pense comme deux groupes séparés, mais en réalité, ce sont les hommes et les femmes, je conclue, des mêmes couples, des mêmes familles, ou des pères et leurs filles, et des mères et leurs fils. Donc, c'est des groupes qui coexistent et qui partagent en grande partie les modes de vie. Ça contribue aussi, en grande partie, à la pérennité de cette position sociale qu'ils partagent. Mais on pourra peut-être redévelopper là-dessus. Et donc le dernier point, et du coup c'est un peu une transition vers la suite, c'est qu'un autre trait commun et de manière de plus en plus croissante aux ouvriers et aux employés, c'est leur distance au monde politique. Pendant longtemps, ça les a différenciés, hein, alors qu'il y avait des fractions très politisées parmi les ouvriers, c'était moins le cas chez les employés. Le fait qu'aujourd'hui, de façon globale, ils soient marqués par une distance partagée à la politique est très frappant. Donc, à mon sens, l'indicateur le plus fort de ça, c'est l'abstention. Je pense qu'on va revenir là-dessus. Mais elle est aussi élevée pratiquement aussi élevée chez les ouvriers et chez les employés. Et les phénomènes d'éclatement de vote, de démobilisation politique, même s'ils ne sont pas aussi massifs qu'on pourrait parfois le penser, se retrouvent dans ces deux groupes. Donc, je m'arrête là-dessus. Et puis, il y aura sûrement l'occasion de compléter.
Super. Merci beaucoup Yasmine. Et Gérard, je te passe la parole.
Bien, j'imagine que je suis préposé à parler du Front National, parce que comme on vous l'a dit, j'ai avec Willy Pelletier, un collègue, co-publié, co-dirigé un livre qui s'appelait « Les classes populaires et le FN », donc qui se posait cette question de comment comprendre, voilà, ce vote FN d'une fraction des classes populaires, une tentative aussi de faire un peu le point en général sur ce qu'il en est de cette question. Alors, ça ne fait pas de moi pour autant un vrai spécialiste de sciences politiques ni du FN, mais enfin bon, je vais essayer quand même de dire quelques trucs qui me semblent être utiles par rapport à ce qui se dit d'habitude sur ce genre de questions, voilà, pour détruire quelques idées reçues un peu trop simples. Voilà, ça sert souvent à ça, les sociologues et les enquêtes, c'est à faire que voilà, la vision première qu'on a des choses, découvrir que la vision première qu'on a des choses n'est pas forcément le juste, ou qu'elle est très souvent partielle, ou simpleste, trop simple. Voilà. Alors, pour ce qui est du Front National, je vais faire un petit rappel qui n'est pas inutile. Je crois. En mai 1981, vous voyez, c'est quand Mitterrand est élu, il faut se rappeler que le Front National, à l'époque, c'est un groupuscule, mais alors vraiment un infra-groupuscule. Hein. Il fait 0,18% des voix, quoi. Bon, voyez, c'est rien, quoi. Bon. Alors, un décalage pour montrer comment c'est devenu un problème. Au régional de 2015, il remporte 30% des suffrages au deuxième tour. Au premier tour, il est en tête dans la moitié des régions et dans plus de la moitié des communes. Quoi. Donc oui, ça devient, voilà, c'est devenu un problème. C'est devenu en tout cas un acteur de première en grandeur dans le champ politique. Bon, comment expliquer ça? Comment expliquer cette croissance du Front National? Je ne vais pas répondre. Je vais pas répondre à cette question. J'aurais bien quelques idées, mais ce serait sans doute beaucoup trop long. Moi, alors, donc, je vais pas répondre à ça. Mais je vais simplement évoquer la place qui tiennent les classes populaires, dans cet essor du Front National. L'idée banale en la matière, c'est que. Voilà, c'est le FN, c'est comme on l'a titré un certain nombre de journaux à plusieurs reprises, le FN est devenu le premier parti des ouvriers en France. Hein. Vous voyez, le truc là, fort, l'image forte, quoi. C'est plus le PC, quoi. On en parlera Paul tout à l'heure, c'est le FN maintenant qui est l'incarnation politique du vote ouvrier. Bon. Il y a d'ailleurs à ce propos une autre thèse très très banale qu'on ne cesse de répéter depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant, celle qu'avait énoncée un collègue politique, enfin un collègue, on a les collègues qu'on peut, un collègue politiste, l'ancien directeur du CEVIPOF qui s'appelle Pascal Perrineau pour ne pas le nommer, et qu'on voit assez souvent sur les écrans quand il y a des élections, il vient faire ses commentaires savants, qui avait inventé la thèse du gaucho-lepénisme. Alors le gaucho-lepénisme, c'était quoi? C'est encore, on nous l'a ressorti il n'y a pas longtemps, c'est... que en fait, les ouvriers qui autrefois votaient communistes votent désormais pour le FN. Bon, on répète cette thèse, à qui mieux. D'ailleurs, le Perrineau persiste et signe, alors que c'est faux. Voilà, alors ça, faut dire ça. Voilà. C'est statistiquement faux, c'est prouvé, d'ailleurs, par des gens de chez lui, c'est pas moi qui le dis, hein, des gens de chez lui même, qui, depuis longtemps, ont établi que c'était faux. Voilà, c'est-à-dire qu'on a fait des enquêtes sur les anciens électeurs du PC, pour ça, et de leur demander pour qui ils votaient maintenant, est-ce qu'ils sont retournés massivement vers le FN. Alors, ça n'existe pas, il y en a quelques cas. D'ailleurs, on sort toujours le même, hein, un mec, je ne sais pas où, en Moselle, qui est passé de la CGT au FN, bon, qui est maire de son bled. Bon. Alors, on nous sort toujours le même, parce que voilà, ça existe, il y en a un, vous voyez, j'en ai rencontré. Quoi. Bon, mais en fait, c'est moins de 5%, quoi, voilà, c'est-à-dire vous voyez, une quantité à peu près négligeable. Quoi. Voilà. Donc, c'est faux, voilà. Il faut dire ça. Première chose qu'on peut dire, c'est, mais ça ne fait rien, on répète constamment cette assertion. Bien. Alors, ça ne veut pas dire, quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ouvriers, il n'y a pas d'ouvriers qui votent FN. Non, bien sûr. Ça serait évidemment faux de dire ça. Ceci dit, on peut aussi ramener les choses à leur juste proportion. Alors, par rapport à ça, il y a deux données qui semblent contradictoires, mais qui ne le sont pas. Il est vrai que un peu plus de la moitié de la base électorale, si elle existe, parce que par ailleurs c'est un autre problème, est-ce qu'il y a une base électorale du FN, c'est bien que c'est un problème compliqué. Enfin bon, qu'il y a à peu près plus de la moitié, disons, hein, de l'électorat FN pour adapter cette convention, qui se recrute parmi les classes populaires. Donc ça fait beaucoup. On peut dire oui, c'est de fait un parti à base ouvrière forte. Pas seulement, parce qu'il y a aussi tous les autres, hein, enfin bon, qui font à peu près l'autre moitié, mais enfin bon. D'accord. Mais en même temps, si on se demande quelle proportion des ouvriers et des employés votent FN, alors on s'aperçoit que c'est beaucoup moins que ce qu'on croit, quoi. Aux élections régionales de 2015 dont je viens de vous parler, les calculs avaient été faits par un collègue, Patrick Lehung, qui montrait en fait que si on tient compte du fait que le premier parti des ouvriers, c'est l'abstention, de très loin, hein, vraiment de très 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 loin, surtout pour les élections régionales. Bon, le premier parti, c'est l'abstention. Alors, à ce moment-là, et que par ailleurs, il y a aussi le problème des non-inscrits et des mal-inscrits, bon, compte aussi, quoi. Du coup, ça fait moins d'un ouvrier sur sept à cette époque-là, hein, au régional de 2015, qui avait voté pour le FN, et à peu près un peu moins encore d'employés, quoi. Bon, alors, aux élections présidentielles, ça s'est pas arrangé, mais c'est normal, parce qu'aux élections présidentielles, le taux d'abstention est moindre, on vote plus. Hein, on vote plus aux élections présidentielles, encore qu'on ait voté cette fois spécialement peu, avec des taux d'abstention record, mais ça donne à peu près moins, là aussi, moins d'un ouvrier sur... moins d'un ouvrier, moins d'un employé, moins d'un chômeur sur trois qui a voté pour le FN, quoi. Donc, voilà, c'est pas rien, voilà, ça existe, mais en même temps, c'est pas non plus aussi grand que ce qu'on pourrait croire. Voilà, alors, ce que je voudrais essayer de dire, c'est donner quelques pistes pour réfléchir à cette question, mais pourquoi donc ? Parce qu'il y en a quand même, hein, 1 sur 3, c'est pas rien, bon, pourquoi donc il y en a 1 sur 3 quand même qui vote pour le FN ? Alors, par rapport à cette question compliquée, parce que, à laquelle je ne vais pas donner du tout de réponse définitive, on peut ébaucher des types de questions, il y a quelques éléments qui me semblent utiles de rappeler, donc je vais essayer de le faire. La première idée avec laquelle il faut rompre, là encore c'est une idée reçue, banale, mais bon voilà, qui s'avère fausse, c'est l'idée qui voudrait que le vote FN exprimerait le choix du programme du FN. Vous voyez, c'est l'idée de façon plus générale en politique que voter pour tel parti, ça veut dire voter pour son programme. Vous voyez, ça voudrait dire, par exemple, pour les présidentielles, que ceux qui ont voté FN connaissaient les 144 propositions de la candidate Marine Le Pen, hein, les avaient lues, les connaissaient et avaient voté. Et c'était en fonction de ces 144 propositions qui s'étaient déterminées. Ce qui est évidemment faux. Voilà. La vérité, c'est qu'on saurait, de façon générale, confondre les électeurs et leurs représentants. Bon, en fait, pourquoi est-ce qu'ils votent pour machin plutôt que pour chose ? Bien sûr, je ne dis pas que l'idée du programme ou du discours qui est tenu est totalement absente, mais en même temps, bon, penser qu'ils voilà, adhèrent au programme qu'il aurait présenté, bon, c'est sans doute aller un peu vite en besogne. De façon plus générale, en fait, les enquêtes disponibles, les enquêtes que font les sociologues et les politistes, montrent que la connaissance, hein, que les gens ont des programmes, pour des gens pour lesquels ils votent, est très très inégalement distribuée. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont relativement bien au courant. Bon, un sociologue moyen, en général, il connaît pas trop mal, quoi, il connaît un peu. Quoi. Mais par contre, bon, la femme de ménage, c'est moins sûr, quoi, qu'elle connaisse aussi bien que ça. À vrai dire, très souvent, ils connaissent à peu près rien du tout. Donc, voilà, la première chose qu'il faut constater, c'est qu'il y a une très inégale distribution de la connaissance des programmes. Bien. Tout ça, d'ailleurs, permet de comprendre, au passage, il y a un phénomène tout à fait spectaculaire, constant, bon, en tout cas au fil des dernières décennies, qui est le vote principal, qui est l'absence de vote, justement, c'est l'abstention, quoi, dont on parlait Yasmine tout à l'heure, l'abstention qui atteint des niveaux parfois tout à fait faramineux, et qui, elle aussi, est très inégalement distribuée. C'est pas au hasard, l'abstention, même s'il y a des abstentionnistes partout. Bon, il y a des catégories sociales où il y en a bien plus qu'ailleurs, en particulier dans les catégories populaires. Prendre au sérieux cette question de l'abstention, ce qu'un certain nombre de collègues ont fait, ça veut dire qu'on se pose en fait la question, après tout, qui ne va pas tellement de soi, de quelles sont les conditions de possibilité pour avoir une opinion politique, quoi, et l'exprimer. Donc, vous voyez, pour voter, ça veut dire avoir un point de vue, avoir une opinion. Et bon, mais voilà, encore faut-il avoir une opinion. Et qu'est-ce qui fait qu'on a une opinion, quoi ? Bon, est-ce que ça va tellement de soi ? Alors, les sociologues montrent là encore que, bah non, ça ne va pas tout à fait de soi. Et puis que ça ne se distribue pas, là aussi, socialement, au hasard. Bon. C'est un résultat qu'avait établi il y a longtemps un collègue qui s'appelle Daniel Gaxi, qui disait, en fait, tout se passe comme si, dans les élections démocratiques de nos pays, il y avait une espèce de logique censitaire de fait qui continuait à fonctionner. Alors, plus précisément, qu'est-ce que ça veut dire, cette logique censitaire de fait que, voilà, que je reprends à mon compte en citant Gaxi. Ben, ça veut dire qu'il y a en fait une très inégale distribution, je le disais tout à l'heure, non seulement de la participation électorale, ça c'est l'abstention, mais aussi des compétences politiques, voilà, de ce que je disais, la connaissance des programmes, la connaissance des personnages, etc. Et puis aussi, ce qui va avec, on s'en aperçoit, une très inégale distribution de l'intérêt même pour la politique. Ça vous intéresse la politique, vous ? Oh non, moi pas du tout, hein. C'est pour mon truc, mais non, j'y connais rien, ça m'intéresse pas, ou ça m'intéresse plus, c'est aussi une autre variante. Bon, en fait, par rapport à ces résultats que je viens d'indiquer très très rapidement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une relation très très étroite entre les ressources scolaires, le diplôme, voilà, et les chances d'avoir une opinion. Voilà. Bourdieu disait ça, il disait « La propension à prendre la parole, par exemple en votant, est proportionnelle au sentiment d'avoir droit à la parole. » Ça, c'est intéressant, je crois, je me permets de le citer, parce que ça évoque en fait deux choses. Une que dont je viens de parler, puis une dont je n'ai pas parlé, mais qui me semble très très importante aussi. C'est le fait que, pour avoir une opinion, il faut avoir non seulement des compétences techniques minimales, bon, savoir un peu voilà, les différents partis, leurs représentants, qui parlent de quoi, enfin des choses comme ça, quoi. Bon, au moins connaître ça, mais pas seulement. C'est-à-dire que ça ne suffit pas, quoi. Bon, il faut aussi se sentir habilité à avoir un point de vue, c'est-à-dire que des gens comme moi puissent dire « oui, ben, j'ai le droit d'avoir un point de vue et de le défendre ». Bon. Ce dont on s'aperçoit, là aussi, c'est que voilà, ça dépend, ça ne va pas tout à fait de soi, ça dépend, là encore, très très fortement du diplôme, de la position sociale, du sexe aussi, parce que pendant très longtemps, même si ça change un peu, les femmes pensaient qu'elles n'étaient pas habilitées à avoir un point de vue politique, c'était « vous n'avez qu'à demander à mon mari, il vous dira, lui, ce que je pense bon. ». Ou ce qu'on pense, ou ce qu'on vote, quoi. Bon, parce que je vote comme lui, quoi. Alors, ça change un peu. Mais voilà, pendant très très longtemps, il y avait une espèce d'incompétence statutaire, en quelque sorte, qui était antériorisée comme telle par les intéressés. Bien. D'une certaine façon, on peut dire ça change, ce que je disais, oui, ça change un peu, et en même temps, pas forcément toujours dans le bon sens, au sens où, faut que j'arrête. Oui, je vais bientôt finir. Au sens où la professionnalisation croissante du métier politique fait aussi. C'est-à-dire, vous voyez bien ça, il suffit d'ouvrir le poste, on voit bien, ils n'arrêtent pas de parler d'économie, de politique budgétaire, politique monétaire, machin, on ne comprend rien, quoi. Bon, à part les spécialistes, on ne comprend absolument rien à ce qu'ils racontent. Donc, cette professionnalisation croissante du métier politique fait que la dépossession politique est un corollaire obligé de cette professionnalisation par ailleurs. Voilà. Conclusion, c'est que, voilà, première conclusion, puis peut-être ça sera la seule, c'est qu'on ne saurait déduire du vote FN d'un ouvrier son adhésion au programme du FN. C'est important de comprendre ça. Hein. Ça ne veut pas dire, vous voyez, dire qu'il vote FN, ça ne veut pas dire qu'il est d'accord sur tout ce que raconte le FN. Bon, alors, évidemment, je vais m'arrêter là-dessus, évidemment, je ne veux pas dire pour autant que celui qui vote FN ou le vote FN n'a rien à voir avec le FN. Ouais, oui, ça a quelque chose à voir, mais le problème, c'est de savoir quoi. Voilà, c'est que quand je vote FN, je fais quoi ? Voilà, qu'est-ce que je veux dire ? Bon. Alors, l'intérêt des enquêtes qu'on avait rassemblées dans ce livre, un ensemble, il y en avait, je sais pas, une douzaine, comme ça, c'est de montrer voilà, des configurations particulières de vote FN, des significations spécifiques de vote FN liées à des situations particulières qui peuvent permettre de comprendre ce vote. Voilà. Bon, juste une question quand même, je me donne encore 30 secondes. Par exemple, on peut se faire cette idée, vous pensez que voter FN, c'est un vote raciste. Bon, c'est pas faux, quoi. C'est pas faux, et en même temps, voilà, la question est, qu'est-ce que racisme veut dire dans le cas d'un vote populaire en faveur du FN ? Alors, très souvent, moi, il m'a semblé, en tout cas, dans les quelques trucs que je connais, dont j'ai essayé de parler dans ce livre, que très souvent, en fait, c'est pas exactement comme ça. C'est en fait, voter FN, c'est protester, en quelque sorte, moralement, contre alors, deux thèmes politiques très très courants, hein, les assistés, ceux qui n'en branlent pas une, machin, etc., et qui ont droit à tout, soi-disant, bon, enfin, qui ont droit à beaucoup, en tout cas plus que moi, bon, la protestation donc morale, en quelque sorte, contre ceux qui foutent rien, qui sont récompensés, et protestation aussi, c'est leur autre thème bien connu, hein, de l'insécurité, la délinquance, etc., protestation aussi contre les racailles, quoi. Voilà, donc on est contre les racailles, donc au fond, voilà, celui qui vote FN, les ouvriers, hein, ou les femmes, d'ailleurs aussi, hein, qui votent FN, c'est très souvent lié, je crois, à ces deux thèmes, l'aspect de la protestation protestation morale contre les assistés, la protestation morale contre les délinquants, et à travers ça, la réaffirmation de leur propre respectabilité. Parce que condamner ceux qui ne sont pas bien, c'est par là même dire « moi, je suis quelqu'un de bien ». Vous voyez, bon, donc d'une certaine façon, on peut comprendre, c'est ce que j'avais essayé de raconter, moi, que le vote FN comme une façon de réaffirmer une protestation de sa respectabilité morale. Alors, ça peut être connoté raciste dans la mesure où beaucoup pensent que, oui, mais enfin, les assistés et les délinquants, bon, avec Cavard ou qui sortent, hein, bon, voilà. Donc, c'est vrai que ça a une connotation raciste, mais vous voyez, c'est sans doute pas racisme au sens où, je sais pas moi, le théoricien du racisme en France, Gobineau, il y a bien longtemps, parlait de racisme. Voilà, excusez-moi d'avoir été trop long.
Merci Gérard, vas-y Raphaël.
Eh bien, bonjour à toutes et tous. Raphaël Chalier, doctorant au CRESPA GTM. Du coup, moi, je vais saisir cette question de la politisation des classes populaires à partir d'un angle un peu décalé par rapport aux collègues, même si ça va recouper pas mal d'éléments qui ont déjà été dits, à savoir que j'étudie, me concernant, ce que j'appelle les simples militants des partis politiques. Quand je dis simples militants, je parle de ces personnes qui vous embêtent sur les marchés pour vous distribuer des tracts, il y en a peut-être dans la salle, et qui ont ceci de très particulier, d'être dans une espèce de position intermédiaire entre ceux d'en haut, les politiciens, et ceux d'en bas, les simples citoyens. À la fois d'un point de vue politique, dans la hiérarchie du parti, mais aussi parce que socialement, ils sont souvent issus, par rapport à ce que disait notamment Amélie en introduction, de milieux beaucoup plus modestes que les leaders politiques. Quand vous observez les simples militants des partis, vous vous rendez compte qu'il y a, malgré tout, même s'il y en a moins que dans la société, un certain nombre d'ouvriers, d'employés, de personnes des petites professions intermédiaires, même de précaires, et ainsi de suite. Du coup, observer ces simples militants, je précise que j'observe, en gros, pour vous dire très brièvement, concrètement, ma méthode, j'observe des sections locales des quatre grands partis français, communistes, LR, plus récemment socialistes et Front National. Du coup, une section, une ville, et j'observe la section locale du FN, de LR et ainsi de suite. Et observer ces simples militants, ça va permettre effectivement, comme disait Gérard, de désamorcer certaines idées fausses concernant le rapport populaire à la politique. Du coup, je répète quelque chose qui a déjà été dit, mais effectivement, première idée fausse, les militants, ça vaut pour les votants, mais ça vaut aussi pour les militants, ne rejoignent pas les partis politiques par idéologie. C'est pas vrai. C'est pas comme ça, concrètement, qu'on arrive dans un parti politique. Quand on arrive dans un parti politique, en général, on arrive pour faire plaisir à un collègue ou à une personne de sa famille, par sympathie pour un élu local, qui vous a rendu un service quelconque, ou au contraire, pour embêter un autre élu local avec qui on a été en conflit. Ça peut être pour marquer une rupture au niveau familial ou au niveau du couple. On va s'émanciper, ça c'est quelque chose qui se retrouve assez souvent chez les femmes, on va s'émanciper d'un conjoint ou d'un père prescripteur en adhérant à un parti qu'il n'aime pas. Bref, toute une somme de logiques sociales qui sont très différentes, qui viennent brouiller la simple logique politique. Je vous donne un cas un peu extrême, c'est celle de militants des jeunes communistes, que j'avais étudié dans le cadre de mon terrain communiste, et où concrètement, leur modalité de recrutement, c'était d'organiser des fêtes, et quand les gens avaient bu un coup de trop, eh ben, ils repartaient avec une carte des jeunes communistes. On voit bien que le social, pour le coup, est plus fort que l'idéologie. Tu confirmeras, Paul, si ça peut arriver aussi, si ça arrivait dans le temps. Deuxième idée fausse, un peu liée à la première, l'idée que les militants partageraient la ligne de leur parti. Effectivement, là-dessus, là encore, on retrouve un grand éclatement et une réception oblique. Ce que Richard Hogarth appelait une réception oblique, c'est-à-dire que les gens vont recevoir de leur parti ce qui parle à leur vie quotidienne. Je vais prendre un cas particulier, c'est celui de la section FN que j'étudiais, où vous aviez à la fois des classes moyennes respectables qui venaient avec la ferme conviction qu'il fallait supprimer le social, et que le but du FN, c'était de supprimer le social, comprendre l'assistanat, et dans le même temps, dans la même section, vous aviez des personnes de milieux beaucoup plus précaires qui adhéraient avec l'idée que le FN, c'était le parti qui défendait le social. Du coup, au sein d'une même section, vous pouvez avoir des gens qui arrivent sur une vision du monde complètement antagoniste. Troisième élément, l'idée que les classes populaires soutiendraient exclusivement certains partis, comme les communistes. Yasmine a dit un mot là-dessus. L'idée, par exemple, les ouvriers avant étaient tous communistes, ou aujourd'hui, ils seraient tous devenus Front National. C'est quelque chose, dans les faits, il faut beaucoup se méfier de cette tendance des partis à essayer de capter le populaire et de faire, enfin, en gros, l'idée générale, c'est le populaire, c'est moi, et les élitistes, c'est mes concurrents. Par exemple, quand on regarde le vote, enfin, quand on regarde un parti qui est souvent perçu comme un parti de riches, LR, l'ex-UMP, il y a eu, à un moment, un soutien massif à Nicolas Sarkozy en milieu populaire, à la fois en termes électoraux, mais qui s'est même traduit par des adhésions. Mais par contre, 5 ans plus tard, en 2012, ces adhérents populaires, beaucoup s'étaient perdus dans la nature. Du coup, il faut être très attentif à contextualiser et surtout à ne pas naturaliser, en gros, l'idée que tel parti aurait le monopole de la représentation des classes populaires. Par ailleurs, ça change aussi beaucoup d'un endroit à l'autre. Si c'est l'idée la plus générale qu'il peut y avoir là-dessus, qui est un peu simpliste, mais qu'elle mérite de montrer ça, c'est l'idée de front du Nord et de front du Sud, à propos du FN. L'idée qu'en gros, dans le Nord, c'est plutôt des adhérents populaires, dans le Sud, plutôt des adhérents petits bourgeois, et qu'ils ne viennent pas pour les mêmes raisons. Eh bien ça, c'est une idée qui est juste, même d'une fédération à l'autre. LR à Neuilly, ce n'est évidemment pas la section locale des Républicains dans un quartier populaire du Val-de-Marne ou de Seine-Saint-Denis. Et ça vaut pour chaque parti. D'une fédération à l'autre, vous allez avoir différents soutiens, différentes bases sociales. Ce qui renverrait aussi à la question de la fragmentation des classes populaires. Cela dit, c'est, voilà. Par exemple, à LR, vous allez avoir des employés, mais plutôt des employés du privé ou des métiers de l'ordre, policiers, militaires. Ce n'est pas les mêmes qu'on va retrouver dans les partis de gauche. Quatrième idée fausse, l'idée que les classes populaires seraient intrinsèquement plus conservatrices que les classes aisées. Là encore, c'est bien plus complexe. Ainsi, pendant les polémiques autour du mariage pour tous, j'étudiais des militants UMP et des militants FN. Et ce que j'ai pu constater, c'est que la grande majorité des militants de milieux populaires ne participaient pas au mouvement des biens qu'engagés dans des partis de droite, ne participaient pas à la manif pour tous, et globalement se déclaraient indifférents à la question. Le mouvement de la manif pour tous, au sein de ces mouvements de droite, il était bien plutôt porté par des membres des classes aisées et très fortement croyants pratiquants, en l'occurrence la vieille bourgeoisie catholique traditionnaliste. Attention, soyons très clairs, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'homophobie ou de sexisme en milieu populaire. Mais ça veut malgré tout dire que les conservateurs, les plus conservateurs, ne sont pas nécessairement ceux qu'on imagine. Dernier élément, dernière idée fausse, l'idée que les classes populaires seraient dépolitisées. Il y a une ambivalence autour de cette idée qui renvoie à ce que disait Amélie au début sur l'idée des deux définitions du politique. C'est sûr que c'est quelque chose, si on prend la définition restreinte, la politique des politiciens, la politique des assemblées, vous avez une défiance massive. Tout le monde déteste les politiciens. Aujourd'hui, c'est une idée qui fait relativement consensus. Tous mes militants de terrain font état de leurs difficultés, tous partis confondus, font état de leurs difficultés à mobiliser leurs collègues, leurs amis, leurs familles, qui ne comprennent pas pourquoi ils vont frayer avec les politiciens, et ça sert à rien, et ainsi de suite, tu vas te faire avoir. Et même eux, ils expriment très souvent des doutes sur la capacité de leur parti à transformer les choses. Néanmoins, moi j'ai l'impression que bien sûr il y a la part des compétences, mais il s'agit aussi, enfin plus que d'un désintérêt, il s'agit d'une méfiance vis-à-vis de formes politiques qui sont intrinsèquement élitistes. En ce sens, et je conclurai là-dessus, en observant les simples militants, moi mon constat c'est que plutôt que de dire que les classes populaires seraient dépolitisées, c'est plutôt que les partis, et plus généralement les mouvements militants, dans leur fonctionnement ordinaire, ont tendance à dépolitiser activement les classes populaires en fonctionnant sur un mode très élitiste. En effet, rejoindre un mouvement militant, qu'est-ce que c'est en pratique ? C'est adhérer à une organisation, devoir dépenser de l'argent, ce qui n'est pas possible pour certains segments précaires, devoir donner de son temps, participer à des réunions le soir, ce qui implique d'avoir une maîtrise de son temps. C'est absolument impossible pour certaines personnes prises dans des contraintes de travail, et on sait bien que les contraintes de maîtrise du temps, elles sont beaucoup plus aggravées à mesure qu'on descend dans l'échelle sociale. Ensuite, adhérer à un parti, participer activement, ça veut dire participer à des débats internes qui sont souvent extrêmement lunaires, qui impliquent à la fois des compétences en droit, en histoire, en économie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bref, rejoindre un parti, c'est retourner à l'école. Pour se sentir à l'aise dans un parti, il faut une bonne volonté scolaire. Et c'est une tendance très générale. Les personnes qui s'engagent durablement dans les partis sont plutôt des intellos, des diplômés. Enfin, c'est aussi se confronter à partir du moment où on veut y faire carrière, à partir du moment où on veut prendre des responsabilités, à la question de la prise de parole publique, à la question de la présentation de soi, de la parole dans les médias, du double langage même, de la capacité, selon les interlocuteurs et les cadres, à sélectionner entre ce qu'on pense et ce qu'on peut dire. Compétences qui sont là encore socialement situées. Bref, se sentir bien dans un parti, être un bon militant, c'est majoritairement être un bourgeois diplômé. Il y a un fonctionnement élitiste qui participe à pousser dehors les classes populaires, et ce, à droite comme à gauche.
Super, merci Raphaël. Génial. Paul, à toi.
Bien, après les applaudissements mérités à Raphaël, moi je suis, vous comprendrez vite que je suis l'historien de service, donc je suis censé vous parler d'un temps très simple où tous les ouvriers étaient communistes et qu'il suffisait de faire boire un peu tout le monde pour qu'ils prennent leur carte. Donc c'est pour ça que je parle après, c'est pour finir sur une note un peu plus optimiste, à l'époque où c'était simple quoi finalement. Non, plus sérieusement, enfin, je vais quand même effectivement revenir finalement sur des choses qui ont été dites un peu par chacun et avec mon point de vue d'historien et revenir un peu sur la configuration qui est celle qu'évoquait au tout début Yasmine, une configuration qui était effectivement centrée sur la notion de classe ouvrière et plus largement sur l'idée, enfin, telle qu'on se l'a, peut-être qu'on l'a aujourd'hui de plus en plus par une forme de nostalgie, de classe populaire et d'une classe ouvrière qui serait largement plus mobilisée, organisée, aussi bien sur le plan politique que aussi sur le plan syndical. C'est-à-dire l'idée notamment avec le cas du Parti communiste, d'une classe ouvrière massivement organisée au sein du mouvement ouvrier, donc pendant les années, enfin dire pendant le XXe siècle et surtout depuis la Seconde Guerre mondiale au sein du Parti communiste, et organisation, politisation qui aurait permis, qui permettait, ça c'est une réalité à l'époque, d'avoir une représentation ouvrière au sein de l'Assemblée qui effectivement n'avait rien à voir avec celle qu'on connaît aujourd'hui et celle que décrivait Amélie tout à l'heure, c'est-à-dire une représentation qui fait jouer à fond les logiques, on va dire, normales du champ politique, qui exclut complètement les classes populaires, parce que dans les deux que tu as cités, il n'y a pas d'ouvriers, par contre, il y a des employés. Je peux vous garantir que Marie-Georges Dupuffet n'a jamais été ouvrière, même si elle a été employée. Alors, ouvrier agricole, oui, alors c'est particulier. La salle, non, j'ai bien compris. Mais du coup, dans celle qui est censée être députée communiste, n'est pas non plus ouvrière, même encore aujourd'hui. Donc une logique du champ politique, entre guillemets, normal, qui exclut les classes populaires et la classe ouvrière, notamment. Et en gros, pendant plusieurs décennies, le Parti communiste a non seulement revendiqué la représentation des classes populaires et de la classe ouvrière en particulier, de manière centrale, et non seulement il a revendiqué cette représentation, mais il a aussi concrètement assuré la promotion de représentants des classes populaires, et notamment de la classe ouvrière, dans le champ politique légitime. C'est un petit peu, ça renvoie directement à ce que décrivait Raphaël tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à partir de la matrice originelle des années 30, comment s'est construit finalement le Parti communiste comme entreprise de promotion de la classe ouvrière, autour par contre très clairement d'un modèle central qui est celui que décrivait tout à l'heure Yasmine, l'ouvrier qualifié de la grande industrie, avec des jeux d'alliance avec d'autres secteurs des classes populaires, notamment le monde de la petite paysannerie, surtout après la Seconde Guerre mondiale, mais déjà entre deux guerres. Donc une capacité à agréger aussi certains secteurs, mais du même coup, une capacité aussi à ignorer tout un tas de secteurs des mondes populaires et de la classe ouvrière. C'est-à-dire que aujourd'hui, de plus en plus, finalement, sous l'influence de l'évolution de la société aujourd'hui et sous l'influence des travaux des historiens, des sociologues, les historiens se mettent à redécouvrir la diversité profonde du monde ouvrier et des mondes populaires dans la période des années 50. C'est-à-dire que le Parti communiste a mis en avant des élites militantes issues des secteurs les plus favorisés, entre guillemets, et les plus qualifiés du monde ouvrier, mais ça lui permettait un peu d'agréger ou de leur faire jouer un rôle de représentant de l'ensemble de la classe, mais il y avait toute une diversité à l'intérieur des mondes ouvriers qui était beaucoup plus complexe. C'est tout ce qu'a décrit tout à l'heure Yasmine. Et pour les historiens, du coup, les historiens du mouvement ouvrier en général, et notamment du Parti communiste, la question, c'est un petit peu de savoir qu'est-ce qui s'est défait, finalement, dans cette configuration qui a existé jusqaux années 70 de manière massive. Qu'est-ce qui s'est défait dans la capacité d'une organisation à revendiquer ce monopole de la représentation de la classe ouvrière et des mondes populaires en général. Et il y a là-dessus un certain nombre de en gros, on peut résumer ça autour de l'idée de rendez-vous manqué à partir des années 60. Alors c'est un terme qui est apparu plutôt dans l'étude par des sociologues de la situation dans les banlieues populaires, mais qu'on peut maintenant étendre finalement à ce qui s'est passé aussi dans le monde de l'industrie, dans le monde ouvrier, avec un vrai rendez-vous manqué entre les élites ouvrières traditionnellement communistes, très proches du Parti communiste, l'ouvrier qualifié de la grande industrie, l'ouvrier qualifié de chez Renault, quoi, voilà, cette sorte d'idéal militant, un rendez-vous manqué entre ces catégories et d'autres catégories ouvrières, notamment les OS et de plus en plus massivement OS issus de l'immigration dans les années 60-70. Et en même temps aussi, sur le terrain, on va dire, plus local, municipal, un rendez-vous manqué avec ces populations sur le terrain résidentiel, mais aussi avec, dans les décennies suivantes, avec la seconde génération de populations issues de l'immigration. Par un jeu de... on va dire de conflits qui se sont noués à la fois dans le monde du travail, avec des différences assez massives. En réalité, il y a des travaux maintenant sur, notamment dans le secteur de l'automobile, qui font apparaître des tensions très fortes, en réalité, entre le monde des ouvriers qualifiés et le monde des OS, et puis des conflits très forts aussi dans la gestion des municipalités et en banlieue parisienne et ailleurs, qui ont fait vraiment éclater et qui n'ont pas permis à une organisation qui avait mis en avant la promotion d'élites militantes ouvrières, et qui leur ont pas permis de s'agréger des nouvelles franges des classes populaires. Et ça rejoint tout à fait ce que disait aussi Raphaël, c'est que ces élites militantes communistes, selon un processus mis en œuvre depuis les années 30, se sont effectivement... comme il l'a décrit, des bons élèves, des militants qui certes sont d'origine ouvrière, mais qui sont marqués par leur bonne volonté scolaire, par leur niveau scolaire, de niveau de diplôme un peu plus élevé que les autres, voire pour certains qui sont des ouvriers volontaires et qui ont été ouvriers pour être militants, dès avant même les établis des années 68, il y avait cette démarche chez des militants communistes. Et donc, on pourrait presque dire qu'il y a eu une forme de conscience triangulaire qui a émergé chez ces cadres communistes et chez ces élites militantes communistes, qui a fait qu'ils ont plus cherché à se définir par rapport aux nouvelles catégories sociales que seraient les ingénieurs, les techniciens et les cadres, plus que par rapport à ceux qui seraient entre guillemets en dessous dans l'échelle sociale, les ouvriers spécialisés, les populations immigrées, etc. Ce qui ne leur a pas permis de prolonger la dynamique de promotion des classes populaires qui était au principe même de l'entreprise communiste depuis ses débuts. Donc c'est finalement dans ce moment des années 60-70 que quelque chose a commencé à se déliter. Mais bien sûr, ce n'est pas uniquement sur le plan politique que ça s'est joué, c'est aussi l'effet de transformation sociale assez profonde dans cette période même, de transformation du travail, de déconstruction des collectifs de travail, etc., qui évidemment ont des conséquences encore aujourd'hui, mais les choses se nouent finalement sans doute dans cette période. Voilà.
Merci beaucoup. Je te passe la parole, Philippe.
Oui, donc moi je suis... Moi, l'origine de mon projet, peut-être, maintenant qu'au milieu de ce débat, c'est de faire entendre la parole des ouvriers sur une scène de théâtre. J'ai fait une petite forme théâtrale à partir de paroles que j'ai récoltées donc, auprès des ex-Fralibs. J'ai peut-être raconté un peu l'histoire des Fralibs, peut-être tout le monde ne connaît pas forcément. Enfin, en tout cas, je me suis rendu compte au cours de mon projet que moi qui pensais que nationalement c'était connu comme les LIP dans les années 70, en fait, il y a plein de gens qui ignorent, donc je vous dis ça rapidement. Et les éléphants, c'était des ouvriers qui fabriquaient la marque éléphant et Lipton. Hein, les thés et infusions. Éléphant, c'est une marque marseillaise qui est née à la fin du 19e siècle, que Unilever, la multinationale anglo-néerlandaise, a racheté en 72. Dans les années 80-90, donc ils ont deux pôles de production. Il y a un pôle de production au Havre, un autre à Marseille. Et en 98, ils décident de fermer le Havre en disant on va faire un grand pôle de production européen à Marseille. Et donc, au besoin, si vous voulez, chers ouvriers havrais, vous pouvez descendre, aller travailler à Marseille. Donc il y a un conflit social, un premier. Il y a quand même 54 familles qui sont descendues du Havre à Marseille pour conserver leur emploi. Le Havre et Marseille, c'est quand même deux cultures différentes. C'est pas rien pour ceux qui ont vécu ça. Et il y en a trace dans mon travail. Voilà. Donc 98, ils ferment le Havre. Et 2010, ils ferment Marseille. Ils ferment le Havre en disant ça va être un pôle de production européen, pérenne, enfin voilà. Et donc, calculé, 12 ans après, ils ferment Marseille et ils leur disent, en fait, si vous voulez, vous pouvez apprendre le polonais, aller travailler en Pologne pour 600 euros par mois. Enfin, le truc un peu classique qu'on connaît un peu tous dans ces cas-là. Donc les ouvriers se sont opposés à cette fermeture. Entre la fermeture de l'usine donc en septembre 2010 et la signature de l'accord de fin de conflit en mai 2014, se passent 1336 jours de lutte pendant lesquels les ouvriers donc vont occupation d'usines, actions diverses et variées, boycott de Lipton, et puis juridique, combat juridique. Il va y avoir 4 PSE, hein, 3 fois les PSE sont invalidés par les tribunaux. Le quatrième, juste au moment du quatrième, il y a un accord de fin de conflit qui va avoir lieu avec une participation du gouvernement, notamment. Parce qu'il y a une espèce de négociation tripartite entre Unilever, les ouvriers et le gouvernement Hollande, donc à l'époque, c'est en 2014, qui avait pris beaucoup d'engagements pendant la campagne présidentielle. Enfin, je ne vais pas tout raconter, sinon je vais dépasser les 10 minutes. Et voilà, donc dans tout ce temps de lutte, ils vont travailler à construire, à penser comment conserver leur usine, conserver leurs emplois. Au début même, ils réfléchissent même pas dans des cadres juridiques, puisque ensuite, c'est une fois que la solution est peut-être en train de se faire, ils inventent trop de choses, donc il faut rentrer dans un cadre juridique, donc après ça deviendra la SCOP, c'est la SCOP qu'ils ont choisi comme cadre juridique. Voilà. Et donc moi, je les interviewe juste après la victoire du... contre Unilever, et juste avant la vraie mise en place de la SCOP. Enfin, je rentre dans ce no man's land entre les deux. Donc il faut savoir que maintenant ils ont créé donc deux marques. Donc les Fralibs ne s'appellent plus les Fralibs. Les Fralibs, c'était la filiale de Unilever. Ils s'appellent les Scopti. Scop, plus loin TI. Ils ont deux marques, une marque bio qui s'appelle Scopti, et puis une autre qui, pour les supermarchés qui s'appelle 1336, comme les 1336 jours de lutte qu'il y a eu entre eux. Donc, la fermeture de l'usine et la signature de l'accord de fin de conflit. Voilà, donc moi je suis allé, alors ce que je peux raconter par rapport à, donc sur mon expérience, enfin voilà, mon expérience de terrain, on va dire, Moi, mon travail, déjà juste pour dire en deux minutes ce que j'en ai fait, c'est-à-dire que je suis allé interviewer les ouvriers, j'ai gardé, je fais un travail sur vraiment l'oralité, j'ai enregistré avec le son les ouvriers, et à partir du son, j'ai retranscrit ce qui me semblait potentiellement intéressant, et ensuite je l'ai construit ça constitue un récit. Donc à aucun moment je parle en mon nom, c'est toujours les ouvriers qui parlent, et vraiment en gardant les répétitions, les fautes de français, c'est une langue orale, voilà, que je transmets. Moi, le spectacle, c'est juste ça, hein, j'assume tout à fait, je ne m'amuse pas à jouer, ils ne deviennent pas des personnages, je ne m'amuse pas à jouer les ouvriers, j'assume tout à fait le projet. D'ailleurs, je fais toujours dire à quelqu'un, Philippe est allé interviewer dans leur usine, enfin qui présente le projet, et ensuite je parle et je transmets, je porte leurs paroles. Voilà. Donc ce que je peux décrire sur les ouvriers à l'intérieur de l'usine, c'est qu'il y avait deux, et qui n'est pas dans mon texte, mais que voilà, il y avait deux grosses moitiés, on va dire, je ne sais pas donner les proportions. Il y avait une moitié qui était très impliquée dans la lutte. Qui est une lutte de tous les jours. Alors après, il y a des petites pauses, ils ne sont pas obligés d'être dans la lutte à chaque instant, mais qui, eux, ont été des gens qui ont beaucoup, qui se sont transformés avec la lutte, une conscientisation politique, une découverte déjà du territoire, parce qu'il y avait des gens que j'ai interviewés, ça je ne l'ai pas gardé dans le texte final, parce que j'avais une somme énorme, le premier montage que je fais, ça représente 4 heures de lecture, donc j'ai réduit à 1h30, mais il y en a un des ouvriers qui me raconte juste qu'avant le conflit, il n'était pas allé plus loin que hier d'un côté et Avignon de l'autre, donc grâce à la lutte, il va à Paris, il va en Allemagne, ils ont parcouru toute la France au sud initiatives, il me parle des dunes du Pilat avec des larmes dans les yeux, enfin il y a une découverte du monde, il y a une découverte des autres aussi, puisqu'il y a beaucoup de rencontres qui se font avec d'autres entreprises qui veulent se constituer en scope aussi, il y a des échanges beaucoup, notamment les glaces Pilpa à côté de Carcassonne qui vont devenir la Belle Aude, pareil c'est la même chose sauf que c'est beaucoup plus petit. La Belle Aude, je crois qu'ils sont une vingtaine, là à la fermeture ils sont 180, hein. C'est une grosse, c'est pas rien du tout. Voilà, donc il y a puis rencontre aussi des artistes, des politiques, des voilà, beaucoup de gens. Il y a une transformation, vraiment une découverte. Et voilà, ils disent à quel point c'est phénoménal dans le texte. Et puis il y a une autre moitié qui va être d'accord, qui va suivre en quelque sorte, qui va dire oui, on est d'accord, on suit, mais qui dans la lutte au jour le jour est plus absent, quoi. Plus, et eux par contre ne vont pas bouger. Et c'est ce qui va causer un certain souci à un moment donné, parce que c'était absolument passionnant, c'est un microcosme politique complètement, on retrouvait un peu toutes les tendances politiques qu'il peut y avoir dans la société, et il y avait donc au moment de la victoire de je raconte cet épisode là parce que ça me semble intéressant par rapport à ce dont on parle, mais au moment de la victoire, donc au moment où tout le monde se retrouve pour constituer la démocratie, enfin pour prendre des décisions tous ensemble, donc il y a une part des ouvriers qui étaient assez peu présents sur le terrain pendant la lutte et qui tout d'un coup va participer aux prises de décision dans la coopérative. Et là, il y a une frange, ceux qui étaient les plus radicaux, les plus impliqués et qui avaient réfléchi au projet pendant des années, enfin pendant toute la lutte, quoi, se retrouvent face à des gens qui savent qu'ils ne vont pas être d'accord tout à fait avec eux. Et y a les plus radicaux mettent un veto et demandent même... qui participent pas, quoi. Il y a une volonté presque de purge. Enfin, à des moments, je pensais que le texte il allait virer, parce que des fois il y a un vocabulaire d'après Seconde Guerre mondiale. Il y avait les résistants de la première heure, les résistants de la dernière heure, il y a des collabos, et il y a des volontés de purge à un moment donné. Et ce qui s'est pas fait, il n'y a pas eu la purge. Mais par contre, les plus radicaux, eux, sentant que leur projet allait être dévoyé, se sont barrés. Et même des gens très qualifiés et qui allaient vraiment être une force pour la dynamique de la scope de la coopérative à venir, ils les ont perdus, malheureusement. Voilà. Et après, donc, t'as ces gens-là qui, alors qui, eux, donc, ne m'ont pas parlé, n'ont pas voulu me parler. Je les fais parler dans le texte par les autres, puisque je demande aux autres de parler d'eux, donc ils sont présents dans mon texte, mais eux, j'ai échangé avec eux, mais ils n'ont pas voulu être interviewés. Et eux, ils ont clairement il y a clairement des décalages entre ce que les autres ont rêvé, les mises en place, ne serait-ce que pour le... Bon, après, je ne vais pas vous dévoiler, il faut venir voir le truc, mais...